بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جفان الإسلام على grâce d'Allah عز وجل. Nous avons trouvé la lune de Dhul-Hijjah. Et à partir de cette nuit, alhamdoulilah, nous vivons la première nuit de la première décade du mois de Dhul-Hijjah. Le mois de Dhul-Hijjah fait partie des Ashhurul Hurum, des mois sacrés. Et dans un hadith, il est dit « Ikhtar Allahu zaman, fa ahabbu zaman ila Allah ». Allah Rabbul Izzah choisit les périodes. Et les périodes les plus aimées par Allah, ce sont les mois sacrés. Et parmi les mois sacrés, la période la plus aimée par Allah, c'est le mois de Dhul-Hijjah. Et dans le mois de Dhul-Hijjah, la période la plus aimée par Allah, c'est la première des quatre de Dhul-Hijjah. Les ulama, rahimahumullah, ils commentent le tafsir de « Wal-Fajri wal-Layalin Ashr wal-Shafi'i wal-Watr » en rapport direct avec la première des quatre de Dhul-Hijjah. Avant d'arriver au commentaire de ce verset « Wal-Fajr » et les autres versets et hadiths qui parlent de la première des quatre de Dhul-Hijjah, les ulama, rahimahumullah, ils font un constat que, subhanallah, nous vivons une époque où les gens sont tellement préoccupés par le travail, par le rythme qui est le nôtre, entre le travail, la famille et les activités loisirs, comme on pourrait appeler en guillemets, que, subhanallah, l'être humain finit par oublier sa relation avec son Créateur. Et cette relation, parfois, elle existe d'une façon un peu traditionnelle. Il y a le mois de Ramadan qui arrive, il y a une ferveur collective. Le mois de Ramadan part, la ferveur part de façon collective également, fouadja, Allah musta'an. Mais malgré ça, subhanallah, on a de telles faveurs de la part d'Allah Azza wa Jal concernant sharafu zaman, concernant des périodes qui sont sacrées, et ces périodes-là ont été accordées à cette umma, à cette communauté, et pas à d'autres communautés. Il y a deux choses. Il y a les périodes sacrées, et puis il y a les lieux saints. Concernant les lieux saints, subhanallah, il faut avoir la possibilité de s'y rendre. Pour aller à Mecca, à Medina, pour être parmi les pèlerins, si Allah nous invite, on y va. Si Allah ne nous invite pas, on ne peut pas y aller. Et après, il y a les asbab, les moyens à réunir, les efforts à faire. C'est parfois la portée de certaines personnes, parfois ce n'est pas la portée. Comme on l'avait expliqué dans la prêche du vendredi, il y a deux semaines, le cas de ce, mashallah, ce frère, qui est originaire des îles Comores, qui a économisé pendant des années, des années, des années. Et cette année, il a payé son hajj, il est parti. Allah, et ça, c'est des choses qui remplissent le cœur de joie. C'est pas une économie d'un an. Là, je vous parle, je vous rapporte ce que les organisateurs me disent. Ceux qui ont pris son dossier, son inscription, qui connaissent sa personne. Cette personne a économisé depuis des années. Et lorsqu'il a obtenu, bi'idhnillah, il a réuni la somme, alhamdulillah, il a préféré l'investir dans le hajj plutôt que dans d'autres choses. De des futilités, ou Allahu musta'an. Et cette personne-là, en ce moment, il est à Makkah al-Mukarramah. Et cette personne vit, comme nous, la première nuit de Dhul-Hijjah, et il s'apprête bientôt, dans une semaine à peu près, à démarrer, inshallah, le Hajj. Donc, pour être à Makkah, Madina, Sharaful Makan, des endroits saints, il y a des conditions. Hein, il faut y aller, et les conditions qu'on a réunies. Maintenant, la rahmat d'Allah pour cette Ummah, c'est qu'il y a également Sharaful Zaman, des périodes bénies de l'année. Et ces périodes-là, subhanallah, elles viennent à nous. Quand, comme le mois de Ramadan que nous avons vécu, et de le mois de Ramadan, la dernière décade, et les nuits impaires. On voit comment ça monte en importance. Et parmi les périodes les plus importantes de l'année, et qui malheureusement est en perte un petit peu de ihtimam, les gens donnent de moins en moins d'importance, c'est la première décade de Dhul-Hijjah. Et c'est tellement important qu'il y a divergence d'opinion, ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'imaginait pas, on l'avait rappelé les dernières, à la même endroit, il y a divergence d'opinion entre les savants sur le fait de déterminer est-ce que la première décade de Dhul-Hijjah est meilleure ou la dernière décade du mois de Ramadan. Vous voyez jusqu'à où ils ont poussé les échanges. C'est-à-dire, à cette époque, ils étaient unanimes sur le fait que la première décade de Dhul-Hijjah s'est remplie de bénédictions et remplie de vertus. Mais à un tel point qu'ils sont arrivés à débattre sur le fait que certainement la dernière décade de Dhul-Hijjah est aussi importante que, pardon, la première décade de Dhul-Hijjah est aussi importante que la dernière décade du mois de Ramadan. Chose que peu de gens à notre époque pourraient penser. Et d'ailleurs, quand on voit comment est-ce que notre Ummah, sans généraliser, mais beaucoup d'entre nous, comment est-ce que nous vivons la première décade du Dhul-Hijjah, ben on n'a qu'à analyser les comportements, on n'a qu'à analyser la salat de Isha de ce soir, on se dit que ben, y a rien à voir avec le premier Ramadan où on voit, mashallah, il n'y a plus de place pour faire la prière à l'extérieur. Dire que les gens, ils ont perdu l'importance de ce mois, de cette décade. Alors que, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam nous fait un rappel concernant l'importance du iltizam, l'importance de l'accomplissement des bonnes actions durant cette première décade. Hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma, de lequel le prophète alayhi salatu wassalam rappelle le croyant, « Ma min ayyamin a'azamu indallah wa la ahibbu ilayhi al'amalu fihinna min hadhihi al'ayyam al'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid rawahu Ahmad hadha. » Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam rappelle qu'il n'y a pas une période de l'année où les actions sont aussi aimées par Allah. Il n'y a pas une période de l'année où les bonnes actions sont aussi appréciées par Allah que cette période-là, la première décade, min hadhil ayyam al-ashr, que cette première dizaine du mois de Dhul-Hijjah. Et le prophète alayhi salatu wa sallam donne des conseils de faire beaucoup de tahlil, de la ilaha illallah, beaucoup de takbir, Allahu Akbar, et beaucoup de tahmid, alhamdulillah, et d'autres actions encore qu'on va voir peu à peu. Ça peut nous faire comprendre que cette période-là, elle est extrêmement importante. Et on a besoin d'en être conscient. Et il faut sensibiliser nos proches. Il faut sensibiliser les personnes qui, malheureusement, n'ont pas réalisé l'importance de la décade. Jamais, jamais de jamais, une famille musulmane passerait à côté des premiers jours de Ramadan. Jamais de la vie. Il y a une ferveur, on sait comment on se prépare. Mais, wallah musta'an, on voit rarement un changement de comportement ou une plus grande fréquentation de la masjid durant la première décade de Dhul-Hijjah. Et ce sont là des bienfaits qu'Allah nous accorde. Ce sont des périodes où on a la possibilité de se rapprocher d'Allah plus que les autres périodes de l'année. Ça, c'est les vertus. Mais également une période où on doit faire extrêmement attention, sachant qu'Allah Rabbul Izza attend de ses serviteurs des bonnes actions. Un, il ne faut pas, entre guillemets, décevoir notre Seigneur en étant, Wallahu A'lam, un peu paresseux, un peu en retrait par rapport aux bonnes œuvres, mais surtout en accomplissant des péchés. Ou alors en vivant ses joies comme des joies ordinaires. Là, ce serait vraiment dommage. Imagine une personne qui a un rythme de vie qui se termine, un rythme de journée qui se termine le soir par, je ne sais pas moi, il regarde la télé, il regarde n'importe quoi, il va sur Internet, des trucs qui sont peut-être pas corrects, et ce soir, la personne ne voit aucune différence, il continue à garder ses mauvaises habitudes. Ce serait vraiment khassar. Non seulement cette personne n'aura pas fait d'effort de l'accomplissement des bonnes actions, mais en plus la personne n'aura pas fait d'effort également dans le contrôle de soi et dans l'éloignement du haram. Donc pour revenir un petit peu à l'introduction, les savants disent que nous sommes tellement pris par notre rythme, tellement occupés, enfin occupés en guillemets, hein, on s'occupe plutôt des choses qui ne sont pas prioritaires, qu'on finit par, subhanallah, oublier la pensée d'Allah. Et il y a une parole magnifique, innama hasal lima ta'allaqat al-qulub bi ghayrillah. Il dit que le problème, c'est que, wallah, kalam ajib, il dit, qu'est-ce qui fait qu'on est aussi éloigné de la pensée d'Allah et de l'obéissance? C'est parce que les cœurs se sont éloignés d'Allah et que dans les cœurs, il y a l'attachement pour d'autres choses que l'amour pour Allah. L'attachement pour les biens, l'attachement pour l'honneur, l'attachement pour les plaisirs immédiats, et ainsi de suite. Et à partir du moment où on remplit ce cœur d'autres objectifs, ben le cœur perd comme objectif la recherche du rida Allah, du contentement d'Allah, Azza wa Jal. Vous connaissez ce hadith qui dit qu'il y a dans le corps de l'être humain un morceau de chair, une partie. Si cette partie-là est saine, mashallah, le corps sera à suivre, le corps va suivre. Mais si cette partie déjà est, on va dire, corrompu, et ça, elle est remplie d'autres choses, ben le corps va suivre également. Le prophète me dit que cet endroit, c'est, ce morceau, c'est al-qalb, le cœur. Dis donc, si intérieurement, notre cœur est orienté vers plein d'autres objectifs, et nous ne sommes pas en train de rechercher de façon continuelle le contentement d'Allah, ben il est normal que cela se traduit et cela se voit à travers nos actions, le peu de mauvaises actions, à travers les péchés et à travers notre insouciance face au temps qui passe. Et ensuite, le cheikh il dit que malgré notre éloignement, ben Allah nous comble de ses bienfaits. Et parmi cela, ce qu'on a dit tout à l'heure, la première décade. Et là, il va citer trois textes. Il y a le verset Wal-Fajr qu'on a cité tout à l'heure. Wal-Fajr que la plupart d'entre nous mémorisons. Wal-Fajr wal-layali na'ash wal-shaf'i wal-watr. Et il donne comme tafsir, si on retrouve, hadith de Jabir. On a retrouvé, alhamdulillah, radiyallahu anhuma, de lequel le prophète, alayhi salat wa salam, il dit, « Innal ashr, ashrul al-adha. » Quand Allah, Rabbul Izzah, dit « Wal-Fajr wal-layali na'ash », il fait le lien directement avec ces 10 jours. « Wal-Watr, c'est yawm arafa. » Et « Wal-Shaf'a, c'est yawm al-Nahr. » Le yawm al-Nahr, ça correspond au 10e. Al-Nahr, c'est le sacrifice. C'est le jour du sacrifice. Donc, selon, je n'ai pas le nom du mufassir, mais l'auteur, il donne ce tafsir que les trois thèmes évoqués dans le début de Sourate Al-Fajr, c'est en rapport avec la décade, c'est en rapport avec le jour de Arafat, et c'est en rapport avec le jour de Udhiyah, le 10e du mois de Dhul-Hijja. Donc, pour qu'on comprenne que ce verset est en rapport direct avec la période que nous vivons. Également, le hadith qu'on avait cité tout à l'heure, l'introduction, le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, tout à l'heure, c'était la version de Ibn Umar, radiallahu anhuma, celle-là c'est d'Ibn Abbas, qui rappelle que les actions les plus aimées par Allah sont celles qui sont accomplies durant la première décade de Dhul-Hijja. Et par rapport à l'échange des savants concernant la décade qui aurait plus de valeur, il y en a qui sont d'avis que c'est bien sûr la dernière décade du mois de Ramadan, sachant que dans cette dernière décade, il y a Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et d'autres savants sont d'avis que non, la première décade de Dhul-Hijja, afdalu min ayyami 'ashr Ramadan al-akhir, est mieux que la dernière décade du mois de Ramadan, bi'itibari yawmay 'Arafa wa an-Nahr. Parce que selon eux, la première décade de Dhul-Hijja a plus de vertu, parce que dans cette première décade, il y a deux événements importants. La dernière décade de Ramadan, il y a la nuit du destin, une nuit sur 10. Et alors que dans la première décade de Dhul-Hijja, il y a deux événements. Et les deux événements sont cités dans la sourate Al-Fajr. Et ces deux événements, c'est bien sûr le jour de Arafa et le Yawm al-Nahr, le jour du 10e de Dhul-Hijja. Hada. Alors, maintenant qu'on est conscient que c'est une période importante que nous sommes en train de vivre, et que cette période importante, c'est une faveur de la part d'Allah, et qu'on n'a pas le droit de vivre cette période comme des jours ordinaires, donc on comprend qu'il doit y avoir deux réactions. La première des réactions, c'est augmenter notre quota de bonnes actions. La deuxième réaction, c'est faire extrêmement attention à ne pas commettre des péchés. Autant un croyant il se contrôle durant le mois de Ramadan. Il fait attention, il ne peut pas faire les mêmes bêtises qu'en dehors de ce mois. Ben, wallahi, dans cette première décade, on doit faire tout pour que Allah Azza wa Jal soit satisfait de nous. Parce que le terme, il n'y a pas une action qui est le plus aimée par Allah. C'est-à-dire que Allah Rabbul Izza, il observe nos actions tout le temps. Mais durant cette période, ben, les actions qu'on va faire, ben, Allah Azza wa Jal sera encore plus satisfait, encore plus content de nous. Mais on a besoin de faire en sorte qu'Allah Azza wa Jal soit content de nos actions. Et surtout pas qu'Allah soit déçu de notre comportement ou de notre persistance dans les péchés. Alors, quelles sont les actions qu'il est bon de faire? Parce que là, on passe aux choses concrètes. On vient de commencer, on est à 1 heure de temps ou 2 heures de temps du mois de Dhul-Hijja. Donc, il est temps de prendre des résolutions, donner une orientation à la décade que nous allons vivre. Parmi les actions qui sont sunnah, c'est de jeûner au maximum. Dans un hadith de Hafsa, radiallahu anha, le prophète, elle dit, il y a 4 choses que le prophète, alayhi salat wa salam, faisait régulièrement, il ne délaissait pas. Et parmi les choses qu'elle a citées, c'est jeûner le jour de Ashura, ou al-Ashr, et jeûner les jours de la première décade de Dhul-Hijja. Après, il y avait d'autres choses comme les trois jours de tous les mois. Les trois jours que le prophète jeûnait, 13, 14, 15, tous les mois. Le hadith rapporté par Nasa'i, par Abu Daoud et par Imam Ahmed. Les savants, hein, ils expliquent, disent qu'on ne va pas dire que c'est sunnah totalement de jeûner du premier jour jusqu'au neuvième jour inclus, sachant que, bah après si on va un peu plus loin, il y a hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit le contraire, que le prophète n'a pas jeûné, dit que c'est pas tous les ans certainement, le qawl rajih entre les savants, c'est que certainement le prophète ne l'a pas fait tout le temps, mais au moins une fois il avait jeûné, ou alors plusieurs fois, et c'est peut-être des périodes que Aïcha radiallahu anha, elle n'avait pas vu le prophète alayhi salam jeûner. Il y a des fois le prophète faisait des prières de la nuit très longues, et il y a des fois il faisait des prières de la nuit moins longues. Donc ce que les savants disent, que c'est mustahab, et que autant on va jeûner, autant ça nous sera profitable. C'est-à-dire qu'on doit passer le maximum de temps de l'ibad. Et les savants disent que quelle est l'action qui, mashallah, occupe le plus de temps? Quelle est la bonne action qui occupe le plus de temps du croyant? Ben c'est le jeûne. Parce qu'à partir du moment où je fais le suhur, Allahumma inni asumu ghadan lak, jusqu'à la rupture, Allahumma lak asumtu, ben chaque minute, chaque seconde est considérée comme une seconde de ta'a, d'obéissance. Chaque seconde est considérée comme une seconde de soumission à Allah Azza wa Jal. Parce que je suis en état de muraqabatullah permanent. Je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais, parce que même si c'est un jeûne qui est mustahab, on prend autant de précautions que si c'était un jeûne obligatoire. Parce qu'on a fait un vœu, on s'est engagé auprès d'Allah de respecter le jeûne jusqu'à sa rupture. Dis donc, le croyant, le mu'min, qui peut jeûner le maximum de jours, mashallah, autant, si on pouvait enlever ce kafar, ce serait très gentil. Jazakallah khair. Ne pas le jeter sur moi, idéalement, et me jeter plus loin. Barakallah fi. Jazakallah khair. Et donc, on revient à... Autant on va jeûner, autant ça ne sera profitable. Maintenant, une personne dit que oui, mais demain, je peux, tel jour, je peux, mais tel jour, j'ai, je sais pas, moi, j'ai un rendez-vous, tel travail, c'est compliqué. On va dire qu'il n'y a aucune obligation, et il n'y a pas de remords non plus à voir si on n'a pas pu jeûner, mais autant, jazakallah, remplir notre mizan et hasanat, notre mizan, notre balance, avec de bonnes œuvres. Et la bonne action accomplie dans cette période, c'est profitable pour nous, et en même temps, on va, entre guillemets, montrer, prouver à Allah, et Allah, il connaît ce qu'il y a dans notre cœur, qu'on est là, on répond présent, on est prêt à faire tout ce qui est possible pour que tu sois satisfait de nous. À notre niveau, notre soumission ne sera pas la soumission des sahaba, des tabi'in, des tabi'in. On est trop faible. On n'a pas assez de jus spirituel en termes de iman, on n'a pas assez de force. On vit dans un contexte compliqué, mais c'est le maximum qu'on peut faire. Au moins jeûner. Si quelqu'un, bi'idhnillah, si quelqu'un peut jeûner du premier, demain, jusqu'au jour d'Arafat inclus, c'est vraiment une action qui va le distinguer de l'ensemble des croyants. On fait une niyat, l'intention, inshallah, dans la mesure du possible, et nous demandons à Allah, Rabbul Izzah, de nous donner le tawfir, de nous accepter, de nous choisir pour jeûner chaque jour jusqu'au jour d'Arafat inclus. Hada. Donc par rapport à ce hadith, il y a des commentaires, et entre autres, parmi les personnes qui jeûnaient régulièrement les 9 Dhul-Hijjah, du 1 au 9, c'est Abdullah ibn Umar radallahu anhuma. Je pense que savoir qu'Abdullah ibn Umar radallahu anhuma est resté ferme sur une bonne action, c'est un guide amplement suffisant, le fils de Umar ibn al-Khattab radallahu anhu. Parmi ceux qui jeûnaient régulièrement les 9 jours de Dhul-Hijjah, on retrouve Mujahid. Je t'avais posé la question. Qui était Mujahid? Le professeur, le cheikh, le professeur d'Ibn Kathir, rahimahullah. Ibn Kathir a appris le tafsir avec Mujahid, ce grand alim. Donc, il était de ses habitudes également de rester ferme sur les jeûnes des 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Wa aktharul ulama'i 'ala al-qawli bi siyamiha. Et beaucoup de savants sont d'avis qu'il est bon de jeûner. Il est mustahab de jeûner ces 9 jours. Ses paroles ont été rapportées dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba et un livre très connu, La Ta'if al-Ma'arif, de Ibn Rajab al-Hambali, rahimahullah. Hada. Et bien sûr, quand on parle de jeûne, on termine en apogée, on pourrait dire, avec le jeûne du jour de Arafat. Hadith connu, vertu connue de tous. Le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle que le jour de Arafah, ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da, rawahu Muslim. A dit que le jour d'Arafah, j'ai espoir que par le biais de ce jeûne, Allah Azza wa Jal nous pardonne les péchés de l'année écoulée. Et Inch'Allah, et Allah est tellement généreux. Déjà qu'on entend qu'Allah peut nous pardonner les péchés de l'année écoulée, dit Allahu Akbar, ajib, autant la générosité d'Allah, un an, une année de péché pardonné. Oui, Allah est capable de le faire. Mais le prophète continue, wa sanatal lati ba'da, même l'année qui vient après, Allah Rabbul Izza est prêt à pardonner ses péchés. Les savants disent que cela prouve la générosité d'Allah Azza wa Jal. Allah attend de son serviteur un effort. Et cet effort-là, on doit absolument le faire le jour de Arafah. Pour ceux qui ne sont pas à Arafah. Après ça, ça ne passe là. Celui qui est présent à Arafah, est-ce qu'il jeûne, il ne jeûne pas, ça ne passe là. Ceux qui n'y sont pas, masakin comme nous, les pauvres, ben, nous, on doit absolument jeûner. On a nos frères là-bas, ils sont avec les haram, on fait doua et tout. Nous, on va rester là, on va manger quoi, biryani, mambataba, on va manger ventre plein. Alors qu'ils sont en train d'obtenir des favours minallah. Donc, la moindre des choses que moi je peux faire, khalas, asoum hadha al-yawm. Avec tristesse et espoir. Tristesse qu'on n'est pas avec nos frères à Arafat, il y en a qui vont pleurer. Et espoir, raja, l'espoir que Allah nous couvre de sa générosité parce que j'ai fait ce que j'ai pu. Je ne suis pas là-bas, je suis là. Le mieux que je peux faire, c'est de jeûner, de ne pas manger du matin au soir. Et avec ça, bien sûr, pas besoin de prier, rester ferme sur ses prières. En jamaat, en congrégation, dans la mesure du possible, et ses autres bonnes actions du quotidien, tout en restant éloigné du haram. Donc on a compris pour les jeûnes, et principalement le jeûne, le 9e de l'Hijja, le jeûne de Arafah. Al-muhafadatu ala al-nawafil. Parmi les actions recommandées par les pieux prédécesseurs, le fait de rester ferme sur les salat nafil. Quand ils disent les salat nafil, c'est parce qu'ils ont même pas, ils pensent même pas nécessaire de préciser les faraz, bien sûr. Les prières obligatoires sans le moindre doute, mais après également les sunan rawatib, les prières, les sunan, mais également les prières nafil, le qiyam al-layl, tahajjud, le shuruq, 5 ou 10 minutes après le lever, tulu' ash-shams du soleil, ila ghayri dhalik. Hada. Il était de l'habitude de Saïd ibn Jubair, idha dakhala 10 dhil-hijja, ijtahada ijtihadan. Il faisait tellement d'efforts, c'était à la limite de ce qu'il pouvait supporter. Et il disait que n'éteignez pas vos lampes, enfin, c'est les bougies, comme on appelait avant, il y a un autre terme. N'éteignez pas les bougies pendant les nuits de la première décade. Tu'ajibuhu al-ibada. Ibn Rajab, il rapporte que Sa'id ibn Jubayr, pendant la première décade, il passait la nuit en ibada. Il demandait aux croyants, laissez vos bougies allumées pour pouvoir faire la prière toute la nuit. Autant, nous on a compris que la dernière décade de Ramadan, il faut passer en nuit ibada, mais ses pieux prédécesseurs, ils savaient qu'il est important de faire le maximum. Maintenant, il n'a pas été dit qu'il faut passer la nuit en ibada, tout comme on le faisait pour la nuit du destin. Non, on va pas pousser la comparaison à ce point-là, mais sachant qu'il est profitable pour nous de faire le maximum, ben voyez comment les pieux prédécesseurs, c'était quoi la conception du maximum? Pour eux, maximum, c'est quoi? 9 jours de carême, de jeûne, et 9 nuits de tahajjud sans dormir. C'est-à-dire, tout ce qu'ils pouvaient faire, ils le faisaient. Pourquoi? Pour qu'Allah Rabbul Izzah soit satisfait d'eux. Et est-ce qu'ils voyaient la récompense tout de suite? Ils ne voyaient pas la récompense tout de suite. Et ça, c'est iman. C'est ça la qualité de la foi. Ils faisaient, ils donnaient tout ce qu'ils pouvaient donner, et ils savaient qu'ils vont retrouver ça auprès d'Allah Azza wa Jal. Et quand on accomplit une bonne action, on doit aller dans le même sens. Que je le fais avec ferveur, avec amour, avec dévotion, je m'applique, parce que le jour de Qiyama, Allah Rabbul Izzah va me rétribuer. C'est là-haut que j'obtiens les récompenses pour ces bonnes actions. Hada. Troisième point, parmi les actions qui sont recommandées durant la première décade, le dhikrullah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat de suratul hajj. Les mufassirin, rahimahumullah, disent que, après avoir ce verset, et ils font le dhikr d'Allah, ils pensent à Allah Azza wa Jal, dans ses jours, ils disent que, hey, hiya ayyamul ashr, cela concerne la première décade de l'Hijja. Et il était de l'habitude. Alors, quand on parle de dhikr, particulièrement, c'est le takbir. Takbir et tashriq. Comment on le récite? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Les savants expliquent qu'il y a deux étapes pour le takbir et tashriq. C'est-à-dire quand on voit la lune du premier Dhul Hijjah, il est sunnah de le lire aussi souvent qu'on peut. Ensuite, l'autre étape, c'est lorsqu'on est à la salat de Fajr du 9e Dhul Hijjah jusqu'à la salat de Asr du 13e Dhul Hijjah. Là, en plus de le lire autant que possible, on doit le lire à voix haute après l'accomplissement des prières pour les messieurs et à voix basse pour les dames. Il y a un tel point, c'est important que si on oublie, on doit le rattraper, on doit lire quand on y pense. Donc il y a deux niveaux. Et le premier niveau, ça commence dès maintenant. Quand on a vu la première nuit de Dhul Hijjah, ben, autant que possible, on lit le takbir. Il était de l'habitude de Ibn Umar, radiallahu anhuma, et également de Abu Hurayra, radiallahu anhu, donc, mashallah, de référence, كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. Rapporté dans les commentaires de Sahih Bukhari, c'est-à-dire dans Fathul Bari. Il dit que Ibn Umar et Abu Huraira, pendant la première décade de l'Hijjah, ils avaient l'habitude d'aller dans les souks, dans les marchés, le bazar ou les endroits où on fait de la vente, du commerce, et ils lisaient le takbir à voix haute. Et quand ils lisaient le takbir, les gens, la foule répétait avec eux le takbir. Pour que la umma comprenne que ça c'est ayyam ou l'ashr, il faut lire le takbir. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Ils le mettaient en pratique de cette façon. Maintenant, ça ne veut pas dire que on va qu'à fois demain, on va lire à fois takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous aurez GIGN, GPN, vous aurez la défense, vous aurez tout. La totale, les bérets verts, les G.I. Joe, tout le monde vient. D'accord ? Donc, on va pas. Ça, c'est hors contexte. On est là-bas, c'est un contexte de pays musulmans, descendants, je pense à Salam. Là, on est dans un contexte différent. Mais, dans la mesure du possible, on doit essayer de tashri le lisan, faire en sorte que la langue soit occupée avec le takbir. On écoute un peu moins Radio Freedom, on paie un Cheikh Hadi Inch'Allah. Donc, on va le suivre. On essaie de moins discuter, moins de paroles inutiles, passer moins de temps devant des futilités, regarder des matchs ou des je ne sais pas quoi, perdre un jeu de temps, on essaie au maximum de les takbir. Et quand on est dans les embouteillages, et ça on est servi, il y a tout ce qu'il faut, si vous êtes à la route du littoral et que c'est basculé, ça aussi, ça arrive, ben, subhanallah, takbir, takbir, takbir en permanence. Mais maintenant, dans le contexte, vous menez le takbir à voix basse. Parce que même si quelqu'un vous entend, il y a Allahu Akbar, Allahu Akbar, on est dans une situation, une période un peu complexe où les gens ils peuvent penser n'importe quoi, d'accord ? Tout est une question de clairvoyance, d'accord ? Et d'intelligence, de contexte, d'accord ? Mais ici, on ne va pas le takbir à voix haute, bien sûr, mais le dhikr, on le lit, dans la mesure du possible et autant que possible. Hada. Quatrième action qu'il est bien de faire, ça on ne va pas le dire pour pas qu'on soit trop triste, le hajj, dans la mesure du possible, si quelqu'un est là-bas, c'est le hajj. En gardant l'esprit que le hajj qui a été agréé par Allah, laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Le hajj mabrour, qui a été agréé et accepté par Allah, n'a d'autre récompense que. Et cette formule, le Prophète, laysa lahu illa. Il n'y a rien d'autre si ce n'est que, pour comprendre que c'est ça et rien d'autre, le jannah. Pour celui qui a fait le hajj correctement, Allahumma ja'alna minhum. Et ce hajj également, le Prophète dit que celui qui fait le hajj, Raja'a, et qui le fait correctement, sans péché, sans mauvaise chose, il retourne comme un nouveau-né. Kayoumi waladatu umm. C'est hajib. Et cette métaphore, ce n'est pas mubalara, ce n'est pas une exagération, c'est que vraiment la personne peut obtenir le pardon total, même pour ses kaba et redhunoub, quand on lui a expliqué pour la prêche du vendredi il y a deux semaines, que Yom Arafa, il aura vraiment la ferveur, il va demander tawbatul nasuha, il y aura une telle ambiance, une telle rahma qui descend, qu'automatiquement, il va trouver de son cœur la an-nadam, les remords et le désir de obéir à Allah, Rabbul Izza, et il sera, inshallah, demander pardon à Allah correctement, et ce sera considéré comme un tawbatul nasuha. Hada. Et point suivant, donc après, il y a quelques points concernant le pèlerinage, donc ça ne nous intéresse pas cette année, mais ça nous intéressera plus tard. Al-Udhiya, le sacrifice. Pour ceux qui ne vont pas au Hajj, le sacrifice pour ceux qui ont les moyens. Donc là, il y a des vertus. Et le prophète m'a dit qu'en ce jour, le jour du dixième, il n'y a pas une meilleure action que le croyant peut accomplir que le sacrifice. Après, il y a des masa'il, celui qui a fait un sacrifice, à partir du moment où il a vu la lune de Dhul-Hijja, il ne doit pas se couper les ongles, ni se couper les cheveux. Donc ça, c'est des masa'il fiqhiyya, ça on peut expliquer en privé. Maintenant, les savants attirent notre attention également sur la sincérité dans tout ce qu'on va accomplir comme bonne action. Si on a décidé de jeûner à partir de demain, là, ce soir, on a expliqué qu'il est bien de le faire, mais si on a décidé de mettre en pratique, il ne faut pas dire aux gens, Mashallah, là, c'est parti. 9 jours de jeûne affilé, c'est comme ça que je vis le Dhul-Hijja. Ça dépend. Si on dit ça pour motiver notre camarade, ça peut aller. Mais principalement, le jeûne est une action qui est vraiment, vraiment synonyme de sincérité. Quand on jeûne, théoriquement, personne n'est censé savoir. Quand on prie, on vous voit prier. Quand on lit le Coran, on vous voit lire le Coran. Mais le jeûne, normalement, c'est une action qui est cachée. Et ça, on dit, c'est une des raisons pour lesquelles le jeûne est l'action la plus aimée par Allah Azza wa Jal. Donc, tu en as jeûné, on n'a pas besoin de mettre sur notre statut Facebook ou Twitter que, voilà, c'est mon 3e jour de jeûne, 3 sur 9 déjà. Waouh, on y est. Le tiers du chemin, il fait dans ma quête spirituelle. Ça va aller, c'est bon. Ne brade pas tes actions pour Iblis. Parce que s'il y a Ria, il y a l'ostentation. Voilà, ça fait rien pour toi. Allah Rabbul Izzah n'accepte pas une action qui est faite pour lui. Et ensuite, il y a une petite part pour d'autres. Et cette petite part, c'est pour faire montrer aux gens, pour que les gens disent que oui, lui, c'est quelqu'un qui il jeûne 9 jours d'affilée, là, tu as tout perdu. Donc, on essaie de cacher au maximum nos bonnes actions. Il y a même des exemples de pieux prédécesseurs dans certaines périodes. Ils faisaient semblant de boire pour que les gens pensent qu'ils n'ont pas jeûné. J'avais lu ça il y a très longtemps. Il faisait semblant pour que les gens pensent que c'est quelqu'un d'ordinaire. Il voulait cacher, il voulait que les gens pensent que lui c'est voilà cheikh. C'est quelqu'un qui est simple. Alors que, mashallah, c'était des awliya Allah. La sincérité, c'est également dans le sacrifice. Il y a les gens qui sont très fiers de leur bête. Et ça, c'est vraiment dommage. Tellement fiers, il va acheter un animal qui coûte 8 000, 9 000, 10 000 euros et l'exposer fièrement. Et ils disent que non, ça c'est madja, ça c'est le plaisir, ça c'est la période et tout. Maintenant, quand on expose un animal comme dans un musée, et que les gens viennent, ils prennent des photos, ils mettent sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, dites-moi, est-ce que vous avez la garantie d'être sincère de la première minute à la dernière minute? Moi je doute. Puis peut-être qu'il y en a qui sont vraiment muttaqis, ils ont un degré de piété qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, mais les savants disent que si vous voulez que l'action soit vraiment pour Allah, cachez l'action. Vous avez acheté un animal, mettez dans votre cour, il n'y a pas besoin de donner un spectacle, que tout le monde voit que lui, il a acheté un gros bœuf, il a acheté un tel truc. Et ça, c'est devenu une maladie spirituelle. C'est devenu un phénomène de mode, et que les gens, pour eux, c'est devenu la période où il y a telle chose. Et on finit par oublier que, subhanallah, on est en train de faire revivre le sacrifice de Ibrahim alayhi salam. L'Udhiya, c'est la manifestation de l'amour d'Allah. Il a eu son fils à l'âge de 80 ou 82 ans, très âgé. Imaginez quelqu'un à cet âge, subhanallah, bon, à notre époque, les êtres humains de cette génération, après 60, 70 ans, on n'a plus d'enfants. Mais à cette époque, c'était possible, sachant l'espérance de vie qui était différente. Donc, à un âge aussi avancé, il a enfin un enfant, après des années de doigts. Cet enfant, en plus, c'est un garçon qui est synonyme de descendant, c'est-à-dire de la prophétie. La prophétie se transmettait de père en fils. Il a son fils prophète. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas d'enfant. Et cet enfant, maintenant, il est âgé. Il a un certain âge, en 10, 12, 13, 14 ans. Il est arrivé à un âge où il devient Aoun. Il aide son père. C'est plus un petit qui a besoin que le papa s'occupe de lui. Il aide son papa maintenant. Il devient proche de son père. Et à ce moment-là, les savants disent que c'est à cette période où le papa a le plus de muhabba pour son garçon. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal demande à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils. Dur. Très dur. Et la maman demande, est-ce que... Non, le fils avait demandé à Allah wa maraka bihada. Est-ce que c'est Allah qui t'a demandé de le faire? Ibrahim alayhi salam dit oui. Il dit, c'est Allah qui t'a demandé. Nous soumettons à Allah Azza wa Jal. Soumission totale, istislam lillah azza wa jalla. Et donc Ibrahim alayhi salam n'hésite pas une seconde, mais pas une seconde il allonge son fils comme Allah Azza wa Jal lui a demandé. Il va accomplir le geste qu'Allah lui a demandé. Et au moment où le geste va être accompli, il y a le miracle d'Allah Azza wa Jal. Il y a un bélier qui vient et son fils est épargné. C'était là un ibtila, un test pour que... C'est pas Allah, il voulait pas voir, Allah savait l'amour qu'Ibrahim a voulu. C'est un test et un exemple pour l'humanité. Voyez, c'est quoi l'amour pour Allah? C'est-à-dire un amour qui n'a aucune limite. Il n'y a rien qui peut égaler l'amour pour Allah. Même pas l'amour d'un fils. Alors que, si vous demandez à un père à qui il tient plus, son fils ou sa propre épouse, je vous assure qu'il y a débat. Hein? Clair et net. L'enfant, ça c'est subhanallah, tu le passes au flambeau, c'est ta fierté, c'est ton sang ça. Ta femme c'est pas ton sang. Ta femme c'est une personne d'une autre famille, tu t'es marié, tu vas partager la vie. Mais ton fils, ça c'est ton sang. Il y a de toi dedans. Et ton fils qui réussit, c'est toi qui réussis. Ton fils qui a mal, ton fils qui est triste, c'est toi qui es triste, oui ou non? Hada. Et donc il a donné ce qu'il aimait le plus pour Allah Azza wa Jal. Ça c'est le, j'aime pas la philosophie, mais c'est l'esprit du Udhiyah. De nos jours, est-ce qu'on retrouve un semblant de cet esprit de sacrifice d'amour pour Allah? Également, il y a le côté sacrifice financier dans la mesure du possible. Ça, on a fait un petit rappel dans une prêche au centre-ville. C'est que si on a les moyens, qu'on coupe un animal. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Ils peuvent. Combien ça coûte un cabri? Dites-moi, une chèvre. Pas un cabri, une chèvre. Combien ça coûte? Une chèvre qui a l'âge. 200 on peut avoir, 220. Ça, c'est possible. Là, à la fin, il brade, là. D'accord? 220, 230, on peut avoir une chèvre qui a l'âge. Après, si vous voulez cabri, bouc, c'est plus cher, bien sûr. Mais ça, c'est une part. Et qui a l'âge, c'est le minimum. Mais dites-moi, très honnêtement, est-ce que 200 euros, c'est très compliqué à réunir? Pour avoir 200, allez, on va dire 250, avec la corde, ou si on a un ami, ou le boucher où on doit payer l'évacuation des déchets, 250. On met de côté 20 euros tous les mois. 15 euros, 20 euros. On fait, ça, ce sera un sacrifice. Il y a des gens qui ont les moyens. On connaît des gens qui ont les moyens, mashallah, mais ils ne veulent pas mettre de l'argent dans une bête. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent 20 euros, 30 euros dans une enveloppe. Ils disent, voilà, on va envoyer à Madagascar. On va envoyer en Inde. On va envoyer dans tel pays où il y a des gens qui sont démunis. Sans le moindre doute, là-bas, ils ont plus besoin. Ce n'est pas le débat. On a compris que là-bas, il y a besoin. Mais ton sacrifice, il est où? Mettre 30 euros dans une enveloppe, c'est un gros sacrifice, ça, honnêtement. Quand on va faire les courses, minimum 80-90 euros. Et est-ce que ton cœur fait mal quand tu as fait les courses? Quand tu vois le ticket Carrefour, est-ce que tu dis « Allah, Akbar, ya Allah, comment ?» Tu sais que ça, c'est pas déjà fait. Tu vas manger tout ça. Tu as un besoin, c'est vital. C'est pas un sacrifice. Alors 30 euros, c'est ça notre udhiyah? Et on a l'impression que, khalas, j'ai accompli ce que je devais faire, voilà mon sacrifice. C'est quoi ça? Idéalement, une personne qui tous les mois met de côté un petit billet bleu, un seul. Le bleu, c'est 20 euros. D'accord? Au bout de 10 mois, il a 200. Vous mettez encore 2 mois, ça fait 240. Suffisant pour acheter un petit animal. Et un petit cabri, il n'y a pas besoin d'une armée, ça. On coupe une personne, il ne coupe pas besoin de la corde, rien. Quelqu'un qui a économisé, et qu'ensuite, il tire ce paquet d'argent, il fait le sacrifice, subhanallah, on ressent qu'il y a quelque chose dans le cœur. On a fait un effort et on donne ça pour Allah Azza wa Jal. Non, Wallahi al-Azim, ça c'est extrêmement important. Si on n'a pas pu se préparer pour cette année, ben on fait l'intention dès maintenant pour l'année prochaine. Puis les savants disent également, même en termes d'impact pour nos enfants. Tu expliques aux enfants le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam pour Dhiya, mais il n'a jamais vu. Je ne te dis pas que l'envoyer voir des gens qui coupent, ça c'est spectacle ça, mais voir son papa qui dit, voilà mon fils, regarde, tous les mois je mène un petit peu d'argent de côté pour acheter un animal, pour sacrifier, on fait ça pour Allah, et Allah sera content de nous. Et l'enfant, il voit, le petit cabri, il vient, bon, je ne sais pas si on a une maison, une cour ou autre chose, mais on trouve un endroit où on peut le mettre. Il comprend qu'il y a quelque chose, il y a un esprit de sacrifice. Si on veut que nos enfants soient imprégnés de cet esprit, mais il faut qu'ils le voient. Il faut qu'ils nous voient, nous-mêmes, les parents, mettre en pratique. Inch'Allah, on fait l'intention pour, soit pour cette fois-ci, si on a un peu d'économie, tout de suite on va voir quelqu'un, un éleveur à la plaine là, on essaie de prendre un petit cabri, Inch'Allah, ou alors on se prépare pour l'année prochaine. Ça, c'est un geste important. Et les kulli sha'ara, pour chaque poil de l'animal, inshallah, on aura des récompenses. Et dans un hadith, il dit que de Qiyama, l'animal viendra avec ses cornes, avec ses poils, avec ses sabots, de tout son poids, il va peser dans la balance de notre mizan hasana, ça nous sera profitable. Et là, on va avoir l'importance de ce genre d'action. On va s'arrêter à là, inshallah. Et oui, après, il y a tout un chapitre sur l'ostentation, mais ça, on en a plus ou moins parlé. On doit faire très attention dans tout ce qu'on fait pendant cette période, mais d'une manière générale, faire attention que jamais dans nos actions, on essaie de faire voir aux gens, faire en sorte que les gens, ils parlent bien de nous. Ça, ce serait vraiment la pire des choses, parce qu'on perd les efforts, on perd les récompenses, on perd tout. Le sacrifice de temps, de tout ce qu'on a fait, on perd tout, il n'y aura strictement aucune récompense. Qu'Allah Rabbul Izzah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles et que l'importance de cette décade pénètre nos cœurs et qu'Allah nous donne la possibilité, à partir de cet instant, Inch'Allah, d'orienter nos cœurs vers lui et d'être très attentifs, de profiter de chaque instant pour faire le maximum de bonnes actions et de faire très attention de ne pas faire de péché et qu'on puisse, dans la mesure du possible, mettre en pratique les actions qui sont recommandées. Wa tawfiq illa billah. Lundi prochain, Inch'Allah, on va reprendre avec Riyad al-Salihin. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.